L'atelier des médias, Julien Le Bot.
Je vais vous faire une révélation, oui, une révélation. Contre toute attente et pour faire taire très vite toutes les contre-vérités qui circulent sur la toile et sur les réseaux sociaux, oui, je m'appelle vraiment Julien Le Bot et non, ce n'est ni un pseudonyme, ni un avatar, je ne suis ni un robot, ni même une machine. Je vous livre ce scoop qui n'en est pas un pour vous prévenir tout de suite. Dans l'heure qui suit, nous allons parler de robots, de chatbots, de bots en tout genre, d'intelligence artificielle et d'automatisation des tâches, de collaboration entre des hommes et des machines. Et là, je suis comme vous. Chaque jour, chaque article qui passe, chaque nouvelle révélation sur ce monde qui vient, sur ce futur déjà là peuplé d'hommes, de femmes et de machines capables d'apprendre et de progresser, eh bien ce monde-là, il me fascine, il m'interpelle autant qu'il m'intrigue. Autrement dit, il faut, séance tenante, essayer d'en savoir plus. Aussi, je vous propose, en seconde partie, d'entendre une conversation qui nous permettra de comprendre ce que l'intelligence artificielle change à la fabrique de l'information.
Avec une machine, on peut arriver à comprendre et reproduire l'intelligence humaine.
Dans une dizaine de minutes, c'est à un tout autre voyage que l'atelier des médias vous invite. Notre reporter Mathias Virilier a pu assister cet été à Paris à une représentation d'un nouveau genre. Je veux parler de l'expérience proposée par Live Magazine.
Nous, on adore quand on nous dit qu'on est du journalisme spectacle parce qu'on aime bien ce côté vivant et palpitant.
Vous allez voir, ce journalisme en quête d'éphémère qui ne laisse pas de traces puisqu'il n'y a pas d'enregistrement ne demande en revanche qu'à être partagé, repris et dupliqué. Je suis donc Julien Le Bot. Je suis entouré de toute l'équipe de l'atelier des médias, Manon Mella, Mathias Virilier, Camille Deloche, Simon De Creuse à la réalisation et tout de suite, on appelle Guy Mouyembe à Lubumbashi. Bonjour Guy.
Bonjour Julien.
Alors Guy, vous êtes mondo-blogueur et vous êtes également cofondateur du collectif Abari. Alors dites-nous Guy, Abari RDC, qu'est-ce que c'est précisément ?
Abari RDC, c'est une coalition de jeunes blogueurs congolais décidés à donner un espace d'expression à tous les jeunes gens de ce pays, de ce vaste pays, sachant que il n'y a pas beaucoup de lieux où ces jeunes peuvent donner leur point de vue, peuvent échanger librement en toute respectabilité, quoi.
Abari en swahili, si je ne me trompe pas, ça signifie nouvelle. Est-ce que ça veut dire que vous êtes particulièrement sensible aussi à la circulation de l'information en RDC?
Oui, nous sommes sensibles parce que, voyez-vous, l'exemple le plus frappant, c'est pas plus tard que la semaine passée, tandis que les gens manifestaient, que la police réprimait, les radios et les journaux se permettaient de diffuser l'info comme si rien ne se passait. Il y avait certains qui diffusaient des programmes musicaux, il y a d'autres qui parlaient du sport, mais tandis qu'ailleurs, ça chauffait pas mal. Et les rumeurs circulent de bouche à oreille, mais maintenant les rumeurs circulent sur les réseaux sociaux, alors que beaucoup de jeunes des grandes villes sont là-bas. On vous dit ceci, pas plus tard qu'hier, je ne vais pas citer son nom, on parlait de l'assassinat d'une grande autorité de ce pays, alors que c'était une vraie intox. L'info a circulé et a même dépassé les frontières de notre pays. Et si on n'y tire pas attention, ça peut être une vraie catastrophe dans ce pays, quoi.
Dernière question avant qu'on se sépare, Guy. Je crois qu'il reste un problème très important en RDC, c'est celui des problèmes d'accès à Internet, et c'est notamment lié au coût. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
Oui, les coûts d'accès à Internet ont augmenté de façon vertigineuse au cours des derniers mois, sans explication aucune. Quand vous regardez le prix des forfaits d'un opérateur téléphonique, c'est presque le même prix. On se demande est-ce un hasard ou bien ils se sont réunis quelque part en secret pour décider d'un commun accord, de quelle manière ils vont faire leur politique tarifaire. Donc on ne comprend rien.
Guy Mouyembe, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes mondo-blogueur et cofondateur de abari-rdc.net. Merci Guy.
Merci Julien.
Faites-nous part de vos actualités médias et innovations en publiant sur le site de l'Atelier des médias atelier.rfi.fr.
Quoi de neuf, quoi de beau cette semaine dans le radar de l'atelier des médias de RFI. L'ère de la post-vérité, ce n'est finalement pas pour tout de suite. Et le fact-checking, comme on dit en anglais, a encore de beaux jours devant lui. Pourquoi ? La radio américaine NPR a mis en ligne sur son site lundi dernier un dispositif permettant de vérifier en direct les déclarations des deux candidats à la présidentielle américaine. N'hésitez pas à aller voir sur le site de la NPR. Vous pouvez retrouver toute la retranscription des débats assortis de commentaires et de correctifs. Le dispositif est simple comme bonjour. L'équipe technique a mis en place une retranscription textuelle automatique des échanges lors du débat envoyée sur un Google Doc. Et c'est sur ce même Google Doc que les 20 journalistes mobilisés en direct par cette opération ont pu venir ajouter des commentaires ou procéder à un certain nombre de vérifications. Rappelez-vous, en juillet dernier, Catherine Weiner, rédactrice en chef du Guardian, avait écrit une tribune dénonçant la débâcle des médias dans le décryptage d'informations pendant la campagne en faveur du Brexit. Elle s'indignait alors d'une victoire des partis pris et des petites phrases sur les faits. Et la journaliste d'en conclure à l'époque « Bienvenue dans l'ère de la post-vérité ». Cette innovation de la NPR a donc au moins un mérite, celui de nous rappeler qu'il est encore possible de se battre sur le terrain des faits, et c'est une bonne nouvelle. L'open data est le grand gagnant, nous dit cette semaine Regard Citoyen, de la loi numérique adoptée en France. Pour mémoire, l'open data, c'est ce mouvement qui doit nous faire entrer dans une forme de démocratie numérique où les données d'intérêt public produites par des administrations ou portant sur leur fonctionnement doivent pouvoir être accessibles à tous les citoyens. Et le collectif Regard Citoyen de se féliciter dans un billet de blog des avancées contenues dans la loi numérique adoptée cette semaine. L'enjeu n'est pas mince puisque l'on entre dans une phase d'open data structurelle, je cite, où la publication des données publiques n'est plus un simple outil de communication mais constitue un véritable axe de service public à l'ère numérique. Quelques bémols quand même dans cette histoire puisque certaines administrations restent exclues de cette loi numérique. Les petites collectivités, les administrations soumises à la concurrence et les archives continueront à faire exception dans cet effort de transparence démocratique. Allez, un petit effort encore puisque la France accueillera en décembre prochain un sommet portant précisément sur le gouvernement ouvert. Nous aurons d'ailleurs l'occasion d'en reparler dans l'atelier des médias. L'atelier des médias souhaite d'ailleurs cette semaine la bienvenue au Business Insider dans sa version française et souhaite bon courage à Marie-Catherine Beuth, ex-chroniqueuse de la maison, qui est aujourd'hui aux manettes de ce nouveau venu de la toile francophone. On le trouve sur businessinsider.fr. Je vous rappelle qu'à l'atelier, on aime jongler en direct entre les sons et les réseaux, donc tous les liens et toutes les références de nos brèves sont à retrouver en direct sur le compte Twitter de l'atelier, atelier_media.
Informons, inventons, discutons.
L'atelier des médias, c'est aussi un ensemble d'expériences et d'innovations low-tech, comme on ne dit pas, c'est-à-dire sans chichi ni fioritures technologiques. Notre reporter Mathias Virilli est donc parti voir ce que Live Magazine propose en matière de journalisme éphémère. Et comme il n'existe pas d'enregistrement live du Live Magazine, on est allé assister à la dernière répétition avant le spectacle.
Je suis Florence Martin-Kessler, je suis la rédactrice en chef du Live Magazine, le journal vivant.
Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots ce qu'est le Live Magazine ?
Alors le Live Magazine, c'est un journal vivant. Donc l'idée, c'est qu'au lieu de tourner les pages d'une revue, d'un journal, d'un magazine, on va demander aux auteurs, donc beaucoup de journalistes, mais aussi des photographes, des cinéastes, et puis aussi des gens qui ne sont pas vraiment journalistes, mais qui sont artistes, de venir raconter des histoires sur scène pendant quelques minutes. Ce sont des récits assez courts, ce sont des récits inédits, vrais, éphémères, parce qu'on n'enregistre rien. Donc tout ce que vous allez entendre dans l'atelier des médias, ce sera des bribes de répétition.
Du coup, ça va si on continue ou tu préfères le refaire ?
Non, c'est...
Ok.
Quelle est l'historique et la genèse de ce projet Live Magazine ?
C'est un format qui existe déjà aux États-Unis qui s'appelle Pop-Up Magazine. Donc l'idée, c'est que c'est de faire sortir le pop-up, ça veut dire la troisième dimension, donc sortir de la feuille, sortir de l'écran.
L'éclosion, quelque part.
L'éclosion, exactement. Donc de donner un peu de vie à un journal. Et donc j'ai rencontré le fondateur de ce journal qui s'appelle Douglas McRae. Et j'étais complètement emballée par l'idée. Je trouvais ça d'une simplicité folle et à la fois complètement géniale. Donc, j'ai jamais pu voir Pop-Up Magazine parce qu'il n'y a aucun enregistrement. Mais je lui ai demandé est-ce que je pouvais reproduire, enfin, un peu pour m'amuser, un peu artisanalement comme ça. Il m'a dit « Just do it ». Et donc, on a fait ça dans une petite salle à Paris. D'abord, on était 300 et maintenant, on est dans un théâtre de plus de 1000 personnes. C'était il y a 2 ans. Donc, depuis, on a fait des éditions à Marseille avec un focus un peu méditerranéen. Normalement, on n'a pas de thème. On est un peu comme une revue généraliste. On a des rubriques internationales, Afrique, politique, société, environnement.
Alors du coup, vous parlez du rubriquage. On assiste donc à un spectacle vivant. Vous prenez la forme d'un journal. Ça veut dire quoi, prendre la forme d'un journal pour un spectacle vivant ?
L'idée, c'est que quand des gens sont assis dans le noir dans une salle de spectacle... Peut-être parce qu'on est beaucoup bombardé d'informations, qu'on a des alertes dans nos téléphones et que l'information est très désincarnée. Le fait de savoir que 15 auteurs vont venir vous raconter une histoire qu'ils n'ont jamais racontée ailleurs et qui est souvent très importante pour eux, c'est une promesse qui est assez forte, même si elle est très simple. Et ça permet de partager quelque chose et de donner un peu du sens. Et disons que c'est un autre apport à l'information qui est très dans l'air du temps, parce que tout ce qui est éphémère, tout ce qui est live, tout ce qui est rencontre, tout ce qui est incarné... marche assez bien, en fait, en ce moment.
Par où commencer pour vous dire que je rêve d'une femme que je n'ai jamais vue, que je pense à elle tous les jours, que je marche dans ses pas, que j'enquête sur son histoire. Elle s'appelait Madeleine, elle aurait eu 100 ans en 2015, elle était institutrice. J'ai retrouvé toutes les affaires de Madeleine dans ma cave, dans l'appartement que je loue depuis 2013. C'est dans cet appartement qu'elle vivait elle aussi, avant moi, jusqu'à sa mort en 2012. Sans descendant, personne ne voulait de ses affaires, donc moi, je me suis plongée dedans.
Et c'est quel type d'histoire, du coup, qu'on peut entendre ?
Moi, j'aime beaucoup la variété, donc il y a des histoires qui sont très drôles et hilarantes, qui sont un peu sur les coulisses. Puis l'idée, c'est aussi qu'au Live Magazine, on montre des choses qu'on peut pas montrer ailleurs. On a eu, par exemple, des récits centrafricains photographiques très, très violents, qui sont quasiment impubliables, mais le fait que le photographe, c'était Jérôme Delay, de la Société de Presse, vienne présenter son récit et vienne dire, voilà, c'est extrêmement violent, mais la guerre, c'est comme ça, quelquefois, c'est à main nue et c'est dingue. C'est des choses qu'on peut pas montrer dans des journaux sans médiation, disons. Les gens vont raconter des choses qu'ils n'auraient peut-être pas envie, qui se retrouvent sur Internet en boucle pendant des mois. Là, c'est un moment suspendu un peu.
Vous l'avez évoqué, la programmation du Live Magazine reste secrète. Il n'y a pas de captation, pas de retransmission. Vous êtes un spectacle vivant éphémère et présentiel. Pourquoi cette volonté de l'éphémère et de ne pas vouloir diffuser le magazine au-delà de ce spectacle ?
Parce que on a l'impression que, à notre époque, cette tradition de conte, il faut que ce soit en live et en direct. Voilà. C'est comme si on va à un concert. Alors après, tu pourras regarder le concert sur Internet. Tu n'auras jamais la palpitation et l'énergie, et le côté « je me sens vivant » ici et maintenant que tu as quand tu es en face. Tu vois, on est débordé d'écrans, d'archives. Là, c'est tu viens, tu vois le spectacle et après tu racontes ton histoire. Ça, c'est beaucoup plus fort en fait.
Bonsoir. Voici une photo prise dans le salon de mon appartement familial à Istanbul. Elle date des années 1990, alors que ma mère recevait plusieurs amis chez nous. Il y en a un qui est devenu prix Nobel, vous le reconnaissez peut-être. C'est le romancier Orhan Pamuk. Cette photo, c'est toute mon enfance. J'ai grandi en écoutant les histoires des journalistes et des écrivains qui passaient leur temps au tribunal à cause de leurs écrits engagés, sous pression à cause de leur point de vue, et persécutés à cause de leur identité. Ils essayaient juste de comprendre, d'analyser, de s'exprimer, en espérant donner un peu plus de liberté et de démocratie à la Turquie.
Je m'appelle Ayşe Gülsert. Je suis une journaliste turque basée à Istanbul. J'étais pendant 15 ans aux États-Unis et à voyager en tant que nomade et journaliste freelance. Et je suis de retour aux sources à Istanbul, d'où j'écris pour la presse internationale, notamment pour la presse américaine comme le New York Times et Newsweek.
Qu'est-ce qui vous fait monter sur scène ce soir ?
Beaucoup de choses en même temps. J'aime beaucoup l'idée que des journalistes sortent de leur bureau et se retrouvent sur scène et racontent des histoires qu'ils n'ont pas pu raconter auparavant. Et c'est encore une opportunité pour moi de pouvoir raconter une histoire provenant de ma terre patrie, de la Turquie, et de le partager avec des gens qui peut-être ne connaissent pas très bien le pays ou n'ont pas entendu toutes les histoires.
Est-ce qu'on peut en savoir plus justement sur cette histoire que vous allez raconter sur scène ?
Je raconte un petit peu le destin des écrivains et des journalistes en Turquie pour expliquer que les problèmes que nous avons aujourd'hui avec la liberté de la presse n'est pas nouvelle. Et je raconte notamment l'histoire de Aziz Nesin, un écrivain qui est mort en 1995, et du massacre de Sivas où 37 personnes sont mortes, brûlées vives, dans un hôtel au centre de l'Anatolie à Sivas. Et je ramène l'histoire aujourd'hui avec Can Dündar et Erdem Gül, deux journalistes qui sont en un sens devenus l'ennemi public numéro un de notre président Recep Tayyip Erdogan.
Est-ce que ça vous convient ce mode de diffusion d'une information où une personne raconte son histoire avec son point de vue, sa subjectivité ? C'est quelque chose qui vous plaît ?
Mes grands-parents viennent du centre de la Turquie. Ils ne savaient pas lire et écrire et donc en un sens ils ont grandi avec un petit peu ce format où les gens, peut-être pas des journalistes bien sûr, mais des gens venaient et donnaient des nouvelles de ce qui se passait autour. Et j'aime beaucoup l'idée que le journalisme dont on parle aujourd'hui, qui paraît être un médium mort pour certains, revive en un sens. Et j'aime bien le challenge, donc ça a été une belle expérience.
Bonsoir. Des gens dont c'est pas du tout le métier, mais qui savent raconter des histoires comme personne et qui vont raconter des histoires qui racontent nulle part ailleurs pour vous.
C'est le 10e Live Magazine ce soir et en 10 Live Magazine, on s'est rendu compte que évidemment, on a fait ça pour faire transmettre des histoires, mais on s'est rendu compte que c'était aussi des histoires, ce qui se passait là, les gens qu'on croisait, les rencontres qu'on provoquait, c'était vraiment des histoires qui se poursuivent encore et encore.
Alors c'est des histoires qui se poursuivent avec les auteurs qui les portent, comme vous, ce soir. Merci d'être là. Vous pourrez d'ailleurs les encourager. On pense par exemple à Claire Ménial. Claire Ménial, elle était venue au numéro 2 de Live Magazine. C'était à l'époque à la Gaîté Lyrique. C'était déjà plein, mais c'était trois fois plus petit. Elle était venue nous raconter, pas un reportage, mais un retour de reportage. Un retour de reportage sur Ebola et comment... tous ses proches avaient été très choqués par le fait de la retrouver après ce reportage sur Ebola. C'est la blonde au milieu, Claire Ménial. Si, il y avait un doute. Claire a reçu la semaine dernière, à Londres, le prix Albert Londres. Sa belle histoire continue donc. Bravo à elle.
Bonsoir, vous avez assisté donc à la représentation du Live Magazine. Est-ce que vous pouvez me dire simplement ce que vous en avez pensé ?
Éclectique, passionnant, on est scotché. Quand les personnes rentrent sur scène, on ne les connaît pas, on se fait une idée. Puis 5 minutes plus tard, elles sortent et on les connaît autrement. Voilà, c'est la magie de ce spectacle.
C'était la première fois que vous assistiez à Live Magazine ?
C'est la troisième fois.
D'accord, et est-ce qu'il y a une histoire qui vous a plus parlé, qui vous a plus plu ?
J'ai bien aimé les girafes qui font du plongeon... Comment ça s'appelle ? Plongeon acrobatique. Voilà.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, nous raconter l'histoire peut-être ?
Alors, c'est l'histoire d'un jeune ingénieur qui s'ennuie dans sa vie d'ingénieur et qui s'en sert pour écrire ses fantasmes sur les animaux et notamment la vie rêvée des girafes qui peuvent pas sauter parce qu'elles sont pas faites pour, qui peuvent pas vraiment nager, mais qui peuvent plonger. Voilà, en deux mots.
Merci beaucoup. Bonne soirée. Est-ce que c'était la première fois que vous assistiez au Live Magazine ?
C'était la première fois que j'assistais au Live Magazine. Je ne connaissais pas du tout. Je n'ai vraiment pas été déçu. C'est un spectacle complètement atypique. Je n'ai jamais vu ça. C'est hyper intéressant. On traite de sujets totalement différents, avec des gens d'horizons aussi différents, que ce soit des nationalités. On est passé de la Turquie au Brésil en passant par un type qui s'est évadé de prison. Enfin, c'est complètement... c'est hallucinant. C'est vraiment bien. Vraiment, vraiment bien.
Live Magazine, un reportage de Mathias Virilli, une expérience originale pour l'instant très artisanale. On marque une petite pause et on retrouve Claude Deloupi, cofondateur de C-Labs, qui s'est fait connaître en France grâce à ses robots rédacteurs, et Olivier Delteil, qui au sein du groupe Les Échos a pu tester la génération automatique d'articles. Autrement dit, on va parler intelligence artificielle dans les médias. À tout de suite après le flash. RFI, les... Atelier des médias, deuxième partie. Je ne sais pas pour vous, mais moi, à force de lire des articles sur les robots, je ne suis pas loin de frôler l'indigestion. Il suffit de s'amuser à flâner dans Google Actualité en tapotant « robot » pour comprendre. Qui trouve-t-on à l'entrée robot ? Des robots chirurgiens, des robots de sécurité, des coupes de football de robots, des robots journalistes du sexe robotique ou encore, je cite, « Nestor, le robot qui sert de la bière aux Bretons ». Et encore, je ne vous parle même pas de tous ces mots qui apparaissent sur les sites de prospective et tous les blogs futurologiques et qui prolongent un peu plus notre idylle avec le genre mécanico-informatique. La tendance du moment ? Le chatbot. D'ailleurs, regardez-moi le titre de cet article. Plus qu'une mode, les chatbots sont là pour durer. Alors la messe est dite. Quoi que l'on pense des chatbots, et nous essaierons d'y voir un peu plus clair sur ce que c'est qu'un chatbot, l'heure est à la pacification des mœurs entre les humains et ces formes d'intelligence artificielle. Pacification ? Non, pas seulement, nous dit-on. Il faut aller plus loin. Il faut apprendre à travailler ensemble ou à collaborer avec l'IA ou intelligence artificielle. L'IA à la rescousse des médias, titrait d'ailleurs récemment le blog Métamédia de France Télévisions. Alors, le salut du journalisme passe-t-il par le robot et par l'intelligence artificielle? C'est la question que nous allons poser ensemble et nous allons tenter d'y répondre.
L'atelier des médias, Julien Lebotte.
Bonjour Claude Loupy.
Bonjour Julien.
Alors ça fait maintenant pas mal de temps qu'on se connaît parce que ça fait longtemps que vous avez envie de travailler au service des médias. Et notamment avec C-Labs, la start-up que vous avez cofondée. En un mot, C-Labs, qu'est-ce que c'est Claude Deloupy ?
Alors C-Labs, ça fait longtemps que nous travaillons effectivement avec des médias. Et nous sommes spécialisés dans ce qu'on appelle la sémantique, l'analyse du langage, la production automatique de langage. Et nous travaillons effectivement beaucoup pour des médias, hein, que ce soit pour collecter de l'information, les aider à analyser l'information, la lier, ou pour produire automatiquement des articles à partir de données.
Alors, je vous propose, Claude Deloupy, de m'appuyer sur votre propre parcours pour inviter les auditeurs à réfléchir avec nous sur ce que c'est que l'intelligence artificielle et ce que ça peut changer dans les médias au sens large, c'est-à-dire les producteurs de contenu. Oui, parce que vous êtes au départ chercheur en informatique et vous vous êtes très vite passionné par les questions que nous pose l'intelligence artificielle. D'ailleurs, je crois que s'il y a un film qui a changé votre vie, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace. Je me trompe ?
Oui, totalement. 2001, en fait, c'est la révélation qu'en fait, avec une machine, on peut arriver à comprendre et reproduire l'intelligence humaine. C'est vraiment le côté Graal, le côté prométhéen de la chose, et c'est ça qui m'a fait basculer dans l'informatique, puis l'intelligence artificielle.
Alors, vous, en informatique, vous avez travaillé sur une question très particulière, si je ne me trompe pas. Il s'agit du traitement automatique des langues. Alors, pour les auditeurs, et même pour moi, ça veut dire quoi, traitement automatique des langues, Claude Deloupy ?
En fait, l'intelligence artificielle comporte beaucoup de sections, de domaines, et l'un d'entre eux, effectivement, c'est traiter automatiquement la langue, c'est-à-dire typiquement, on a un texte ou de la voix et de la parole, et on va à partir de là analyser pour savoir de quoi parle le texte ou la personne, qu'est-ce qui est dit, quels sont les éléments saillants, etc. Donc c'est vraiment analyser le contenu textuel ou contenu dans la parole pour en ressortir des informations structurées.
Un peu de vocabulaire pour continuer à avancer, Claude Deloupy, si vous le voulez bien. On n'arrête pas de parler d'intelligence artificielle, mais comment le définir simplement ? L'intelligence artificielle, c'est quoi, Claude Deloupy ?
Alors c'est difficile à définir simplement, mais grosso modo, l'intelligence artificielle consiste à reproduire des processus plus ou moins complexes et généralement qui sont l'apanage soit des humains, soit de certains animaux intelligents. Et donc, c'est tout ce qui fait intervenir actuellement une intelligence. Et donc c'est ce qu'on essaie de reproduire avec la machine. Mais il faut bien distinguer deux types d'intelligence artificielle. La première, qui est dite intelligence artificielle forte, qu'en fait personne n'a jamais réussi à atteindre, et on en est encore loin malgré tout ce qu'on dit. C'est-à-dire l'intelligence qui est capable de s'adapter à n'importe quoi comme le fait un humain, d'inventer des choses et d'avoir conscience de soi. Ça, on ne sait pas faire. Et à côté, il y a ce qu'on appelle l'intelligence artificielle faible qui, elle, s'attache à développer des traitements spécialisés pour faire certaines tâches. Que ce soit servir de la bière au breton, ou que ce soit transformer de la parole en texte, ou déterminer que tel texte parle de politique ou de sport ou jouer aux échecs. Il y a beaucoup de choses comme ça.
Et pourquoi, selon vous, existe-t-il ce désir ou cette nécessité de créer une intelligence artificielle ? Est-ce que c'est au service de la connaissance ? Est-ce que ça nous permet vraiment de transformer ou d'avoir une meilleure prise sur les choses ? Comment vous voyez les choses, Claude Deloupi ?
Il y a deux choses. Il y a le côté pourquoi des gens comme moi se mettent à travailler sur l'intelligence artificielle. Ce côté-là, c'est clairement non pas reproduire un humain, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment analyser l'humain. C'est-à-dire la machine permet de reproduire des micro-processus dans la capacité globale de l'être humain. Typiquement, savoir qu'un texte parle de politique ou de sport, c'est quelque chose d'extrêmement ciblé. Donc on peut s'attacher à ça et se demander comment travaille l'humain, comment l'humain arrive à analyser ça. Moi, je suis issu d'une famille de littéraires, donc c'est vraiment ce côté, la langue, comment l'intelligence humaine fonctionne. Ce qu'on peut reproduire sur une machine alors qu'on peut pas l'analyser en découpant un humain.
J'ai comme la sensation qu'on a passé un cap, en revanche, en matière de développement d'intelligence artificielle. Et pour essayer d'illustrer ce propos ou ce changement d'échelle, j'ai envie de revenir sur deux compétitions. En 1996, Deep Blue, donc un super ordinateur développé par IBM, a battu le champion du monde d'échecs, Garry Kasparov. Comment a-t-on fait pour qu'une machine puisse l'emporter sur un être humain ? Et surtout, comment est-ce qu'on a fait pour lui apprendre à jouer, Claude Deloupi ?
Deep Blue, c'est un cas d'intelligence artificielle faible, évidemment. Et en fait, Deep Blue a appris des milliers, des dizaines de milliers de parties d'échecs. Et donc, on lui a donné un certain nombre de faits. C'est-à-dire, on lui a dit, voici la force des pièces, voici les positions plus ou moins fortes, voici comment les pièces peuvent bouger. Et à partir de là, le système, donc Deep Blue, à part quelques petits points, grosso modo, c'est ce qu'on appelle la force brute, c'est-à-dire il testait tous les coups possibles.
Autre compétition et autre époque peut-être pour l'intelligence artificielle, le 15 mars dernier, l'intelligence artificielle de DeepMind, donc une société britannique qui a été rachetée en 2014 par Google, a battu le coréen Lee Sedol au jeu de Go. Qu'est-ce qui s'est passé précisément ?
Alors c'est très intéressant ce qui s'est passé. Le jeu de Go était prédit comme beaucoup plus difficile que le jeu d'échecs, et c'est vrai, parce que la force brute ne peut pas y arriver. On a des combinatoires, des possibilités de jeu qui sont énormément supérieure, donc aucune machine n'est capable de calculer autant de possibilités. Donc il a fallu que Deep Blue trouve autre chose. Donc il y a plusieurs choses qui s'y sont mises. Déjà, pareil, le système a appris à partir de beaucoup de parties, mais déjà il a joué contre lui-même. C'est-à-dire que en jouant contre lui-même, il a pu créer des milliards de parties et donc évoluer dans des mondes qui n'étaient pas vus avant et donc prédire beaucoup plus de choses et apprendre beaucoup plus. Mais l'un des points là-dessus qui est aussi intéressant, c'est que quand on demande à un grand maître de Go, pourquoi il a joué tel ou tel coup qu'il a fait gagner, le maître de Go dit, mais je sais pas, c'est ce qui me paraissait le plus logique. Un maître de Go a beaucoup de mal à expliquer ses coups. Donc ce qui a été fait par DeepMind, c'est qu'ils ont développé un mini-algorithme qui est capable de décider, est-ce que ce coup aurait été joué par un maître. Et donc à partir de là, la machine a pu gagner.
Autre exemple de la façon dont aujourd'hui on fabrique des formes d'intelligence artificielle, pourquoi Google a-t-elle autant d'avance aujourd'hui sur ses concurrents, par exemple, en matière de voitures autonomes, Claude Deloupi ?
Ah, là, sur les voitures autonomes, c'est le gros trésor de guerre de Google, c'est qu'en fait, Google a des Google Cars qui parcourent le monde depuis des années. On a Google Maps. Google Maps a été fait avec ces voitures qui cartographient l'ensemble des routes de la planète. Et donc, en faisant cette cartographie, Google a pu enregistrer tout ce qui se passait. Il y a une voiture qui arrive à droite, que fait le conducteur ? Ah tiens, il freine. Il y a un tournant, que fait la voiture ? Elle ralentit avant le tournant. Tout ça, Google a pu l'apprendre. Il y a donc ce qu'on appelle un corpus, c'est-à-dire un ensemble de faits qui se sont passés avec des milliers de voitures pendant des années. Ce corpus permet à Google d'apprendre comment un conducteur doit se comporter. Et du coup, il transmet ce comportement à sa machine.
En un certain sens, l'intelligence artificielle, année après année, se rapproche malgré tout d'une forme d'intelligence humaine, alors ?
Sur certains points bien précis. Donc effectivement, là, pour la conduite, on arrive à une forme d'intelligence artificielle qui se rapproche de l'intelligence humaine. Sur le jeu d'échecs, pareil, voire même on dépasse. Mais c'est sur des éléments bien spécifiques. On n'a pas d'intelligence globale qui va pouvoir conduire, jouer aux échecs et faire plein de choses sans être spécialisé.
Mais donc, en un certain sens, et pour être un peu provocateur, l'intelligence artificielle n'existe pas encore.
Non, L'intelligence artificielle forte n'existe pas encore. Je dirais même que je ne vois rien dans les recherches actuelles en laboratoire qui permettent de penser qu'on en aura une dans 10, 20 ou 100 ans. Peut-être que demain, quelque chose va apparaître qui fera que, oui, on a enfin trouvé la solution et on aura une intelligence artificielle forte dans 10 ans, mais pour l'instant, il n'y a rien. Donc on ne sait même pas si on y arrivera un jour.
Allez, on revient du coup au cœur de notre sujet ici à l'Atelier des médias, le monde de l'information et de la transformation de l'espace public, de l'accès à la connaissance. Et vous, votre truc, on a bien compris que le Delopi, ce sont les contenus textuels, les informations, voire les articles. Que peut faire à ce jour une machine, Claude Delopi ?
Dans le contexte des médias, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Une machine peut jouer un rôle de sélection. Donc actuellement, on peut sélectionner des textes en disant « ça, ce sont des textes qui sont intéressants à présenter au public ». Sauf que la façon dont c'est calculé ne me plaît pas énormément personnellement, parce que c'est calculé sur des notions de nombre de lecteurs, d'attirance. C'est pas forcément ce qui est intéressant quand on veut présenter de l'information. Donc dans ce contexte, les éditeurs en chef mécaniques, électroniques, ne sont pas totalement satisfaisants. Il y a d'autres cas où c'est intéressant, typiquement aller trouver des informations de manière automatique sur le web et les présenter à un journaliste, typiquement quand il est en train d'écrire, par exemple. C'est des choses qui sont possibles. Et surtout, il y a ce sur quoi nous mettons l'accent actuellement à C-Labs, c'est la robot-rédaction. Donc l'idée, c'est que on va rédiger automatiquement des textes, des articles qui seront publiés tels qu'on a pu le faire avec plusieurs journaux.
Mais alors pour Le Monde, par exemple, pour parler par exemple d'une expérience qui a été menée par C-Labs et par Le Monde. D'abord, qu'est-ce que vous avez fait avec Le Monde lors de la couverture des élections cantonales, je crois, pour commencer, si je ne me trompe pas. Et puis surtout, c'est quoi l'enjeu pour le lecteur et pour la rédaction, Claude Delopi?
Donc effectivement, alors c'était une expérience la première fois, ça ne l'est plus, puisque nous avons fait les élections régionales derrière et avec d'autres médias que Le Monde. L'idée, c'était de produire des articles résumant les résultats d'une élection, premier tour, deuxième tour, pour les 36 000 communes que compte la France. 36 000 communes, c'est absolument impossible de faire ça à la main. Donc l'idée, c'était d'automatiser cette production-là pour pouvoir produire un article qui s'adresse à des communes qui comptent 30, 300 habitants, peu importe. Et donc c'est pour Le Monde la possibilité de parler à des lecteurs dans un contexte hyper local et donc d'atteindre des lecteurs qui n'arrivaient pas à atteindre avant, si ce n'est sur de l'information générale. Donc c'est un changement de paradigme dans les médias qui peuvent aller sur des compétitions sportives également, dans des compétitions extrêmement locales, pour pouvoir produire des articles.
Mais avec des textes simples. Dans le cas par exemple des élections, on est bien d'accord, on a des données factuelles qui sont les résultats
absolument.
Et on a des textes qui...
Oui, on a des textes qui sont simples. Dans le cadre des élections, c'est des textes très simples. Mais nous pouvons produire des textes qui sont beaucoup plus complexes. On travaille actuellement sur des rapports automatiques touristiques, où là, on va récupérer des données un peu partout, et on va les reformuler sous des rapports qui vont tenir sur 10, 15 pages. Donc, on peut aller beaucoup plus loin que ces petits textes.
Mais est-ce qu'on peut aller vers un article analytique? Alors, par exemple, je sais pas moi, une analyse sur l'évolution du cours de cacao sur les 10 dernières années, les privatisations annoncées au Brésil, ou la situation au Proche-Orient. Est-ce qu'un robot rédacteur qui nous pond en un certain sens des articles pertinents et analytiquement forts, c'est possible et pensable, Claude Delopi?
Sur l'analyse du cours du cacao, c'est totalement possible, c'est même des choses sur lesquelles on travaille actuellement. Sur l'analyse de la situation au Proche-Orient, non. Là, on est dans des situations qui sont infiniment plus complexes et dans laquelle aucune machine, aucune intelligence artificielle n'est capable de se représenter ce qui se passe. La seule chose que pourra faire la machine, c'est aider le journaliste à travailler justement sur plein de situations et essayer de retransmettre sa propre analyse de journaliste sur des éléments locaux.
Très bien, donc ça tombe vraiment à merveille que vous disiez ça, puisqu'on a avec nous Olivier Delteil, qui est journaliste et responsable de l'innovation au sein des Échos. Bonjour Olivier.
Bonjour Julien.
Alors vous, j'ai l'impression que vous avez pu tester précisément aux Échos pas mal d'hypothèses relativement à la collaboration entre une rédaction, un média et l'intelligence artificielle. Est-ce que vous, par exemple, pour entrer dans des mots un peu austères, vous avez testé la génération automatique de textes, Olivier Delteil?
Oui, on a expérimenté cette génération automatique de textes. On l'a expérimenté dans des domaines qui nous sont proches, hein, les Échos étant un média d'information économique et financière, donc on a plutôt regardé sur ces sujets-là, et surtout dans une perspective d'accompagnement et d'aide du journaliste. On a exposé aux journalistes et aux rédactions la manière dont ça pourrait se passer.
En interne, comment ça se passe? Est-ce que vous avez l'impression que le fait de pouvoir élargir ainsi, par exemple, le champ de la connaissance qui est disponible, est-ce que c'est bien perçu par les journalistes?
je vous le dis, on est encore à l'étape de l'expérimentation. Ça fait un certain temps qu'on est dans cette expérimentation. On sait que ça va prendre du temps, parce qu'en effet, ce n'est pas facile aujourd'hui de proposer des, même sous la forme d'un, en parlant d'un outil, de dire à un journaliste, voilà, il y a une production de contenu qui est faite par une machine et qui t'est proposée. Ce n'est pas toi qui va directement taper les mots qui viennent de s'afficher sur ton écran.
Mais entre nous, quand vous voyez le résultat de ce que cette machine peut vous rapporter comme type d'information, est-ce que vous êtes bluffé? Est-ce que ça marche vraiment?
Oui, mais pour reprendre ce que disait Claude tout à l'heure, aujourd'hui ça fonctionne pour énoncer des faits, pas pour exposer une analyse.
Je crois que dans la façon aussi d'élargir peut-être la connaissance ou la pertinence de la couverture d'un sujet par un média, vous avez essayé de lancer un projet qui s'appelait les Échos 360.
Tout à fait. Alors là, les Échos 360, cela permettait de montrer directement à un journaliste ou d'ailleurs à tout à chacun, un lecteur qui vient consulter de l'information, d'aller agréger sur une thématique donnée différentes sources d'information pour que, en quelques instants, le lecteur se fasse une opinion sans aller regarder les différentes sources les unes après les autres, afin de pouvoir avoir accéder à la substantifique moelle sur un sujet donné.
Mais je crois que la spécificité de ce projet, c'est en plus qu'il y a une forme de collaboration entre, quelque part, l'aide éditoriale qui est apportée par des algorithmes qui connaissent un certain nombre de sources, pas forcément d'ailleurs institutionnelles, et une sélection ou une curation, quand on prend les gros mots, par l'équipe éditoriale.
Alors oui, en effet, on parle de sélection a priori de différentes sources à des fins éditoriales pour permettre à cette agrégation de contenu d'être la plus pertinente possible.
Vous, Claude Deloupi, à vous lire et à vous entendre, on sent un appétit de connaissances et de mise en place de nouveaux services. J'ai envie de revenir sur plusieurs exemples. Peut-être on va commencer par tout simplement la valorisation des archives d'une émission de télé. Quand, par exemple, on vous demande d'aider à réfléchir sur la valorisation des archives d'une émission de télé qui porte sur les livres, comment vous vous projetez? Est-ce que c'est une équipe éditoriale qui sait ce qu'elle veut, ou est-ce que vous, vous êtes capable de dire, mais vous rendez compte, nos machines sont capables de faire ressortir tel ou tel aspect de l'information dont vous disposez? Claude Deloupi.
Oui, donc effectivement, on a fait ça avec France TV sur l'émission Un livre un jour, 5000 émissions, donc on peut trouver l'application sur le web. Effectivement, l'équipe éditoriale avait déjà une idée assez précise de ce qu'il voulait, pas que l'équipe éditoriale de France TV, mais dans un accompagnement qui avait été fait justement par We Do Data. Mais l'aspect que peut-on faire avec la technologie? Bien sûr que nous, on apporte ici notre expertise pour dire ça c'est possible, ça c'est pas possible, oui ça c'est pas possible effectivement, et là on peut aussi ajouter un certain nombre d'éléments, si ça vous intéresse, on peut faire ça, ça ou ça.
Mais concrètement sur des archives par exemple, qui sont liées à de la littérature, pour moi la machine elle est complètement déshumanisée, et en un certain sens elle n'a pas la faculté de sentir l'intuition du style, du langage, c'est très loin d'elle.
Non.
Comment est-ce qu'on fait?
La machine ne peut pas sentir, mais on peut apprendre à la machine à reconnaître des choses. Donc c'est pas du sentiment au sens où l'humain l'entend. La machine ne pourra pas sentir que ce livre est triste en ressentant la tristesse, mais elle pourra détecter qu'il y a des aspects que l'humain considère comme tristes. Donc la machine ne va pas sentir le livre, mais elle va être capable de dire « un humain va ressentir la tristesse de ce livre ». Généralement, ça marche plutôt bien, il peut y avoir des erreurs, mais grosso modo, c'est ça.
Intelligence artificielle toujours, et dans un tout autre registre, notre reporter Mathias Virilli est allé demander à Jonathan Le Borgne en quoi consistait le chatbot qui a été mis en place par Ouest France en juin dernier à l'occasion de l'Euro 2016. On écoute.
On a voulu tester le chatbot pour surfer sur la vague juste avant l'été. Alors nous, à Ouest France, on a voulu initier sur un processus déterminé. On ne voulait pas engager l'internaute sur du long terme. Donc l'Euro 2016 s'est présenté. On a fait une sélection d'articles. Donc tous les jours, les internautes qui étaient inscrits au bot recevaient une sélection de 5 articles. Et on a essayé d'avoir un fil conducteur où l'internaute interagit, a le sentiment en tout cas d'interagir avec le robot et consulter l'information. L'étape 1 consistait à emmener les gens sur la plateforme, à faire découvrir en quoi consistait un chatbot. Et je pense que l'étape 2, alors je ne sais pas si des médias y réfléchissent actuellement, mais l'étape 2 sera de le rendre plus intuitif, plus interactif, et en fait d'intégrer un web service qu'on appelle, qui est aussi la plateforme Watson d'IBM, qui permettra donc de se nourrir des interactions de l'internaute et ensuite de personnaliser les informations en fonction de l'activité de l'internaute.
Vous, votre expérience en juin à l'occasion de l'Euro, est-ce qu'au final vous en êtes satisfait et est-ce que vous êtes prêt à renouveler l'expérience bientôt avec les chatbots?
Concrètement, en termes d'audience, on n'est pas forcément convaincu. Alors c'est vrai que c'était sur une période très courte, finalement un mois, il a fallu engager les gens. On a eu des problèmes au niveau de la promotion du bot, ce qui est très difficile finalement, de faire la promotion. Nous, ce qu'on a constaté hors audience, c'est que les gens avait tendance à consulter plus de contenu via le bot, environ 3 à 4 fois supérieur par rapport à un post Facebook classique. Le taux de rebond est également 20 points inférieur à des posts Facebook traditionnels. Et dernière chose, la durée de session est 2 à 3 fois supérieure aussi qu'un post Facebook classique.
Donc si je comprends bien, une fois que l'utilisateur a commencé à, voilà, à converser avec le chatbot, le retour est plutôt satisfaisant, mais la difficulté, c'est justement d'arriver à attirer les utilisateurs des messageries vers ces chatbots d'information.
Ouais, c'est tout à fait ça. Faire la promotion, je pense que Facebook proposera peut-être à l'avenir des outils pour en assurer la publicité. Mais aujourd'hui, ce qu'on a vraiment constaté, c'est qu'il y a un comportement des gens qui semble différent des pages Facebook traditionnelles. Donc les gens ont tendance à consulter davantage de contenu. Alors il y a peut-être aussi l'effet nouveauté, parce que finalement il y a quelque chose à la fois d'assez intrusif, mais aussi ça apporte un certain confort, parce qu'on a directement l'info dans sa messagerie, on n'a pas à aller la chercher.
D'accord, et pour finir peut-être, la difficulté c'est quoi? C'est que c'est trop cher ou c'est que voilà, c'est trop tôt? C'est quoi, vous diriez, le point qui bloque un peu le développement des chatbots en France?
Moi je reviendrai peut-être sur deux choses. Alors la première, c'est oui, ça coûte cher, parce qu'en fait il faut quand même se doter d'un web service qui s'appelle notamment la plateforme Watson d'IBM, qu'il faut brancher à ce bot. Et c'est lui qui rend le bot interactif et intuitif. Et en deux, je dirais qu'en France, on a encore ce frein sur les plateformes de messagerie instantanée. Les WhatsApp, les Line, les Telegram sont beaucoup plus développés aux États-Unis et en Asie. Pourquoi ? Parce qu'on a cette hégémonie, cette culture du SMS illimité qui empêche peut-être les utilisateurs à basculer vers ce type de plateforme.
L'atelier des médias.
Est-ce que ça veut dire qu'en France, le chatbot, c'est pas pour tout de suite, Olivier Delteille ?
Ça dépend pourquoi. Je pense que le chatbot, on commence déjà à en voir dans un certain nombre de domaines d'activité, en tout cas dans un certain nombre d'approches relationnelles. Je pense par exemple aux sites e-commerce qui mettent en place des chatbots pour la relation client. Voilà, on commence à en voir au quotidien quand on va sur un site de vente en ligne. Je pense qu'on va de plus en plus en effet l'expérimenter avec aussi l'arrivée et la présence de plus en plus forte des messageries qui sont sur nos téléphones mobiles et qui sont utilisées de plus en plus par des générations de plus en plus importantes.
Oui, c'est ce que j'allais dire, d'autant plus que le jeune public est de plus en plus présent sur ces messageries et de moins en moins sur le web. Claude Deloupi, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, cette histoire de chatbot ?
La notion de chatbot, c'est-à-dire discuter, échanger, interagir avec une machine est quelque chose qui est presque le graal de ce qu'on veut atteindre en IA, en intelligence artificielle. On n'y est pas encore sur un système capable de le faire de façon vraiment efficace, mais pareil, on peut avoir des systèmes spécialisés, on peut faire de la réservation de trains avec des chatbots, voire même via la voix. Ça marche pas toujours très très bien et parfois on s'énerve, mais grosso modo ça marche, on peut faire un certain nombre de choses. Bon, c'est intéressant.
Alors, toutes ces innovations ne vont pas aller sans un certain nombre de questions, naturellement. Et d'abord, il y a évidemment celle de l'emploi, celle de la transformation du travail, notamment dans les rédactions. L'intelligence artificielle, à court terme, c'est pas nécessairement un risque, on l'a bien compris. Mais au-delà, quelles sont les questions qui se posent pour nous, Claude Deloupi ?
Ah, il y a, pareil, il y a deux niveaux de questionnement. Il y a le niveau du danger intrinsèque que représenterait l'intelligence artificielle si une intelligence forte venait à se développer. Donc c'est typiquement le discours des Elon Musk, Stephen Hawking, Bill Gates et autres, qui dit que le jour où on aura une intelligence artificielle du niveau de l'être humain, en fait, elle va devenir une super intelligence parce qu'elle sera capable de s'auto-améliorer. Donc ma réponse là-dessus est à deux points. Un, oui. C'est un danger potentiel, donc oui, il faut faire attention. Nier qu'il y ait ce danger, c'est absurde. Donc il faut surveiller les développements futurs de l'IA. Deux, il n'y a rien qui permette de penser qu'on y arrivera, même dans 100 ans, à l'instant T, quoi, actuellement. Le deuxième point, c'est effectivement l'emploi. Sur l'emploi, il est clair qu'il y aura des transformations. Et ça ne concerne pas que les journalistes, ça concerne évidemment tous les métiers. Maintenant, est-ce que ça va faire disparaître des emplois de manière sèche? Les prédictions sont totalement diverses selon qui les fait. Hein. Certains disent 40% des emplois vont disparaître, d'autres disent non, ça va être 7. Bon, c'est extrêmement difficile. En tout cas, si on prend l'exemple des médias, Un, on n'a actuellement pas la possibilité de faire des journalistes, donc on emploie souvent le terme de robot journaliste, le terme est absurde en soi, parce qu'ils ne sont pas journalistes, ils font une petite tâche extrêmement dédiée, ils ne sont pas journalistes. Et deux, on aura toujours besoin, comme je le disais, de nouveaux types d'emplois, typiquement tout ce qui concerne la data, tout ce qui concerne la gestion de
donc
ces robots.
Donc la donnée.
Ce qui concerne la donnée absolument, la gestion de ces robots, la définition de ce qu'ils doivent dire, comment ils le disent, à qui ils le disent, etc. Et aussi la collecte d'informations, qui est aussi une forme de journalisme de terrain, où en fait on a besoin de gens qui vont aller sur le terrain, comme il y en a déjà actuellement. Pour les élections, il y a des gens dans les bureaux qui vont collecter la donnée.
Olivier Delteil, merci. Je rappelle que vous êtes responsable de l'innovation au groupe Les Échos. Claude Deloupi, vous êtes quant à vous cofondateur de Silab, une start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle au service des médias. Et nous avions au téléphone Jonathan Le Borgne, responsable des réseaux sociaux à Ouest France. Merci à tous.
Merci.
Merci beaucoup.
Vous pourrez retrouver toutes ces références sur atelier.rfi.fr. N'hésitez pas à interagir avec nous sur les réseaux sociaux. L'Atelier des médias, un projet copiloté par Manon Mella, Mathias Virili, Camille Deloche, et une aventure sonore et numérique qui accueille Marie-Stéphanie Servoz, que l'on est ravi d'embarquer avec nous dans cette histoire. À la réalisation, nous avons l'indispensable Simon de Creuse, au micro Julien Le Bot. L'Atelier des médias vous salue bien, vous êtes sur RFI, merci d'être à notre écoute.
Together and laughing and all, then we'll dance.